tout de suite, des infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de la mi-journée, l'état d'urgence sera bientôt déclaré sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'a indiqué hier le gouvernement burkinabé qui s'est également prononcé sur la crise alimentaire. Le contrôleur général d'État annonce l'audit d'une centaine d'institutions dont la primature et l'Assemblée nationale. Ces audits n'ont rien d'une chasse aux sorcières, assure Philippe Nihon, qui encourage les citoyens à dénoncer les biens mal acquis contre des récompenses. Une question dans ce journal, les Burkinabés ont-ils une bonne connaissance sur le Covid-19? L'Institut national de santé publique a mené une étude dans ce sens. Il ressort une bonne appropriation des mesures barrières par la population. Et puis 64 sélectionneurs issus de 19 pays ont déposé leur candidature pour le poste d'entraîneur des étalons, a annoncé hier lundi la Fédération burkinabé de football. Crise sécuritaire et alimentaire au Burkina Faso, le gouvernement tente de trouver des solutions afin d'assurer la sécurité et la pitance des populations. Hier, le ministre du Commerce, Abdoulaye Tall, et celui de la Justice, Barthélémy Kéré, étaient face à la presse. Ils ont dépeint les circonstances qui ont conduit à ces crises et promettent de trouver des solutions avec les différents acteurs afin que les milliers de personnes déplacées internes retrouvent leurs localités respectives, compte rendu Charles Da.
C'est un gouvernement de la transition qui se veut rassurant sur la crise pétrolière et alimentaire due à la guerre Russie-Ukraine. La production du blé a baissé de 30% dans le monde. Le Burkina Faso sera confronté naturellement à une hausse du prix du blé, mais le gouvernement compte faire des efforts pour soutenir le peuple déjà éprouvé par le terrorisme. Le prix du baril passe de 65 dollars en mars 2021 à 130 dollars en mars 2022. Cependant, le prix du litre d'essence n'a pas augmenté au Burkina Faso, a fait savoir le ministre du Commerce, Abdoulaye Tall.
Les prix fixés en mars 2021, c'était au moment où le baril faisait 65 dollars. En mars 2022, on a tout suivi. Le baril frôlait les 130 dollars, c'est-à-dire qu'il a doublé. Mais les prix sont restés les mêmes. Si les prix sont restés les mêmes, alors que le prix d'achat de la matière a doublé, ça veut dire que quelqu'un supporte le supplément quelque part. Et c'est ça, les subventions. Vous avez remarqué également, sur nos 6 voisins, nous faisons partie des moins chers. Nous sommes plus chers que la Côte d'Ivoire, qui est productrice de pétrole. Nous sommes également plus cher que le Ghana. Pour vous donner une idée, le litre de carburant au Ghana coûte 200 francs de plus que le litre au Burkina. Les prix sont passés d'à peu près 360 000 la tonne à 460 000 la tonne, 470 000 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a environ 110 000 qui se sont ajoutés sur le prix de la tonne sur un intervalle de moins de 6, d'en gros 6 mois. C'est logique parce que la Russie et l'Ukraine produisent 30% du blé mondial, en tout cas du blé exporté dans le monde. Et donc si vous avez 30% qui sortent du circuit de commercialisation, naturellement le prix va augmenter.
La hausse des prix des produits céréaliers est une réalité que vivent au quotidien les Burkinabés à cause de l'insécurité grandissante. Pour restaurer les champs et les localités à ces milliers de personnes déplacées internes, des mesures seront prises, d'où l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Barthélémy Kéré, ministre de la Justice.
Ainsi, les mesures que d'aucuns déjà commencent à analyser comme des menaces aux libertés individuelles et collectives sont justifiées par la nécessité de ne pas perturber l'ordre public. Dans son discours à la Nation le vendredi 1er avril dernier, le chef de l'État a annoncé des restrictions à des manifestations à caractère politique et associatif de nature à perturber l'ordre public ou à mobiliser les forces de sécurité, dont la contribution serait plus opportune au front. En pratique, il s'agira de réactiver l'état d'urgence et au regard de la situation d'ensemble, la lutte contre le terrorisme et concernera l'ensemble du territoire national.
La sécurité de l'ancien chef d'État Roch Kabore incombe plus au gouvernement que sa libération. Le gouvernement met en garde les commerçants qui vont volontairement augmenter le prix des produits sans se conformer à la loi.
Charles Da, et en ce qui concerne l'affaire Béguédo, 23 personnes ont été incarcérées et 9 autres libérées. Des avis de recherche sont en cours pour les personnes en fuite. La première audience des personnes déférées se tiendra le 20 avril prochain, a indiqué le ministre de la Justice, Barthélémy Kéré. Et plus d'une centaine d'institutions seront auditées sous instruction du président du FASO. La première vague de ces audits concerne entre autres la présidence du FASO, l'Assemblée législative de la transition et la primature. Les ministères de la Défense et de la Sécurité sont en phase préparatoire d'enquête. C'est ce qu'a annoncé hier la SELC, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, qui dit fonder son action sur des bases légales. L'institution reste impartiale et n'est pas sous les ordres d'une autorité quelconque, a indiqué le contrôleur général d'État. Le compte-rendu avec Asma Odao.
La sollicitation n'entame rien notre indépendance.
Le contrôleur général d'État en train d'éclairer la lanterne des citoyens sur l'exécution d'une mission commandée par le président de la transition, Polari Damiba, notamment l'audit de 140 entités. Selon sa mission, l'institution est indépendante et ne reçoit d'ordre d'aucune autorité, mais elle peut être saisie, dit Philippe Nyon, le contrôleur général d'État.
Les missions qui sont commandées, je crois que c'est en application de l'article 46. L'article 46 dit ceci. La SEE peut être chargée par le chef de l'État. Nous sommes une institution à la disposition des citoyens. Lorsque des dénonciations sont faites, nous avons l'obligation de donner suite. Nous sommes une institution à la disposition du politique. Le chef de l'État peut nous commander des missions. C'est ce que notre loi dit. Le chef du gouvernement peut nous commander des missions. Le président de l'Assemblée nationale peut nous commander des missions.
Des observateurs de la scène nationale se demandent, est-ce que ce n'est pas une chasse aux sorcières? Le contrôleur général d'État, Philippe Nyon, répond.
Si on décide de m'auditer, pourquoi déjà cette opposition? Je parlerai de légitime défense préventive. Nous voulons venir regarder les comptes sur la base d'une sollicitation qui est prévue par la réglementation. L'article 46, là, elle est faite pour être appliquée. On met en œuvre l'article 46 en nous invitant d'aller auditer. On parle de partialité.
Les premières entités à auditer sont la présidence du FASO, le premier ministère et l'Assemblée nationale. Ensuite, 6 autres ministères que sont sport, infrastructure, fonction publique, mines, énergie, urbanisme et finances. La défense et la sécurité sont en phase préparatoire. Pour ces contrôles approfondis de gestion dans les ministères et institutions de l'État, 120 enquêteurs seront déployés sur le terrain pour auditer 140 entités. Les conclusions sont attendues dans un maximum de 3 mois.
Asma Odao, le président de l'Assemblée législative de la transition, Aboubacar Togo Yeni, a procédé hier à l'ouverture d'une session de formation pour les députés nouvellement installés. Objectif, permettre aux députés d'avoir une idée claire sur l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée de façon générale. Cette formation prend fin aujourd'hui. Laetitia Bayala, Valérie Traoré et Yacouba Wilio.
C'est une coutume à l'hémicycle de former les nouveaux députés. Installés le 22 février dernier, ces représentants du peuple s'imprègnent de l'organisation et des réalités de fonctionnement de leur institution. Rakita Zorome, secrétaire général de l'Assemblée législative de la transition.
Cette formation vise à imprimer les députés nouvellement installés pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe à l'Assemblée, pour qu'ils puissent s'outiller afin de pouvoir voter les lois et comment on vote les lois, comment l'organisation de l'Assemblée est faite. Et cette formation vise à mieux enseigner les nouveaux députés pour cela.
La formation s'articulera essentiellement autour de l'organisation interne de l'Assemblée et de la logistique parlementaire. Rakita Zorumé, secrétaire général de l'Assemblée législative de la transition.
Le premier jour de cette formation, c'est pour que les députés d'abord connaissent l'organisation interne de l'Assemblée, les structures de l'Assemblée, les instances de l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée. Le deuxième jour, c'est pour qu'ils puissent connaître le travail parlementaire en tant que tel. On appelle ça la logistique. Et comment voter les lois, la procédure, comment, et depuis le projet de loi jusqu'au vote au niveau de l'hémicycle.
D'autres formations sont annoncées afin de renforcer davantage les capacités des députés, selon le président de l'Assemblée législative de la transition, Aboubacar Togoyeni.
Les Burkinabés et les formations sanitaires avaient-ils une bonne connaissance sur la COVID-19? Pas tout à fait, c'est ce qu'a révélé l'enquête CAP, les connaissances et attitudes pratiques menées par l'INSP, l'Institut national de santé publique, en 2020. Pour la présentation des résultats, les responsables de l'Institut ont animé une conférence de presse hier après-midi à Ouagadougou, Moumouni Yaro.
800 ménages et 800 formations sanitaires de Bobo et de Ouagadougou ont été touchés par cette enquête, dite « Enquête CAP » sur les connaissances et attitudes pratiques menées par l'INSP, Institut national de santé publique, en 2020. Elle relève relativement une bonne connaissance de la pandémie. Cependant, des insuffisances ont conduit à la formulation de messages de sensibilisation. Hervé Yen, directeur général de l'INSP.
Mais il y avait quand même des messages qui constituaient des connaissances erronées, qui pouvaient constituer des faiblesses, surtout dans le moment où les gens sont à la recherche de bonnes informations pour continuer leurs travaux, pour s'intégrer dans une communauté, pour développer des soins. Ces faiblesses dans la connaissance des agents de santé et surtout ce manque des instruments de protection au niveau des formations sanitaires et même dans la communauté ont fait que nous avons formulé des recommandations.
14 messages ont été véhiculés dans ce sens. Ils ont permis d'intégrer les mesures barrières dans notre quotidien. Paulin Somda, directeur santé de l'INSP.
C'est assez bien que les gens maintiennent ces mesures-là pour se protéger contre plein d'autres maladies. Ça constitue une leçon quelque part. On ne s'attend pas à ce que 100% des Burkinabés respectent ces mesures-là à 100% aussi, mais déjà que les gens ils aient intégré ça à eux. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, sans qu'on donne l'instruction, aujourd'hui, quand quelqu'un même se sent un peu enrhumé, il vous dira d'office, ah, je me sens enrhumé là, donc je ne vais pas t'approcher. Donc vous voyez qu'on a quelque part inscrit cela dans les habitudes, dans les pratiques des uns et des autres.
Ces actions ont contribué à la régression de la maladie. Selon Hervé Yen, il faut continuer à respecter les consignes.
Les données statistiques sont indispensables pour l'élaboration des politiques, programmes et projets de développement dans un pays. C'est ce qui a motivé les responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques depuis 1985 à fournir des statistiques au compte du ministère en charge de l'économie. Le ministère des Ressources halieutiques et le ministère de l'Agriculture ont tenu un atelier de validation de la première enquête nationale hier lundi à Ouagadougou. Cela vise entre autres à permettre une meilleure appréciation de l'évolution des tendances de l'ensemble des animaux. Moumouni Tamboura.
Les résultats de cette première enquête, qui sont contenus dans un rapport, permettent aux agents des 10 ministères de connaître le capital fourni par l'élevage. Issa Sawadogo, directeur général de la production animale.
Ça permet d'évaluer quelle quantité d'animaux nous avons. Normalement, chaque année, à partir de l'exploitation de ces animaux, le ministère de l'économie fait des évaluations pour voir quelle est la contribution de l'élevage à la production nationale de richesses.
La contribution de l'élevage dans l'économie n'est pas négligeable. Plusieurs personnes ont pris part à cet atelier. Et même si la présentation de ces rapports comporte des statistiques satisfaisantes, les préoccupations sont relevées. Docteur Jean-Marie Batiebo, vétérinaire.
qu'il faut encore travailler certains éléments du questionnaire, tirer donc la base qui a été produite pour expliquer certaines tendances pour que tous les acteurs puissent avoir leur compte. Ceux qui s'intéressent à la volaille uniquement seront intéressés à voir dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'évolution? Est-ce que notre poulet local qu'on aime tant, est-ce qu'il a des difficultés, il a des problèmes? C'est des questions qui se posent et des préoccupations que les gens ont sur le terrain.
Cette enquête qui a touché 160 000 personnes a connu l'accompagnement de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Elle a permis également de comprendre que les secteurs de l'élevage et de l'agriculture emploient plus de 80 % de la population active et génèrent 80 % des recettes d'exportation.
Un mot de l'actualité internationale, la Cour de cassation de la République démocratique du Congo a annulé hier lundi l'arrêt de la Cour d'appel ayant condamné à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, et renvoyé le dossier devant deux nouveaux juges. La Cour a estimé que le juge d'appel avait violé le droit de la défense de M. Kamerhe en rendant sa décision le condamnant à 13 ans de prison pour détournement de deniers publics alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, a-t-il argumenté. Et l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a obtenu lundi un nouveau report de son procès pour corruption, évoquant des raisons médicales. L'ancien chef d'État, âgé de 80 ans, doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et rackets. Les poursuites portent sur un rachat en 1999 de matériel militaire auprès d'une société d'armement française. Jacob Zuma était alors vice-président de la République d'Afrique du Sud. L'ex-président et ses avocats multipliaient les recours. Le procès a été reporté à plusieurs reprises depuis son ouverture en mai 2021.
Omega Sport.
La Fédération burkinabé de football a annoncé lundi avoir reçu 64 dossiers de candidature pour le recrutement d'un sélectionneur national des étalons du Burkina Faso. L'actualité sportive, c'est avec Ibrahim Bayili.
Bonjour. 64 sélectionneurs issus des 19 pays ont déposé leur candidature pour le poste d'entraîneur des étalons, a annoncé lundi la Fédération burkinabé de football. Les candidats viennent du Burkina Faso, de l'Algérie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Bosnie, du Brésil, de la Bulgarie, du Congo, de l'Écosse, de l'Espagne, de la France, du Gabon, de l'Italie, de la Côte d'Ivoire, du Portugal, de la Serbie, de la Suisse, de la Turquie et de l'Uruguay. 6 mois après son limogeage en Mauritanie, Corentin Martins se retrouve du service. Le technicien français a été nommé nouveau sélectionneur de la Libye et succède à Javier Clemente. Le contrat de l'Espagnol n'a pas été renouvelé par la Fédération libyenne suite à l'élimination des Chevaliers de la Méditerranée dès la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Corentin Martins aura comme adjoint Mustapha Fall. Celui-ci avait déjà travaillé avec lui au même poste quand il dirigeait les Mourabitoun de la Mauritanie. Qui pour succéder à Mohamed Demaga Souba à la tête des Aigles du Mali? On le saura très bientôt. Ce lundi, la Fédération malienne de football a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur. De cet appel, on retiendra que des prétendants devront avoir le diplôme d'entraîneur requis et résider en permanence sur le territoire malien. Ils sont également appelés à proposer un projet qui permettra d'établir une collaboration avec les autres catégories. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 20 avril prochain. Le prochain sélectionneur aura la lourde mission de qualifier le Mali non seulement pour les CAN 2023 et 2025, mais aussi pour le Mondial 2026. Les Aigles ont été récemment éliminés par la Tunisie de la course à la Coupe du Monde 2022, ce qui avait précipité le départ de Mohamed Magasouba déjà sur la sellette après une CAN 2021 quasiment ratée à la suite de l'élimination du Mali en 8e de finale. Malgré la qualification du Maroc pour la Coupe du Monde 2022, un immense flou entoure l'avenir du sélectionneur Vahid Halilovic. pris en grippe par une partie des supporters qui lui en veulent d'avoir écarté Hakim Ziyech et Nusser Mazraoui, qui refuse désormais de revenir, le technicien se retrouve fragilisé et se pose des questions sur la suite à donner à son aventure. La semaine dernière, le président de la Fédération marocaine de football, Faoui Ledja, n'a lui-même exclu aucun scénario. Retardées de 2 ans, les élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football vont enfin avoir lieu le 23 avril. Dans cette optique, les candidats avaient jusqu'à dimanche pour déposer leur candidature, ce qui a fait l'ancien capitaine des éléphants Didier Drogba, soutenu par une foule immense venue l'accompagner, alors que sa candidature avait été refusée en 2020 pour une histoire de parrainage. L'ancienne gloire saura vendredi si sa candidature est cette fois acceptée. L'homme de 44 ans aura pour principaux rivaux Idriss Diallo et Sory Diabaté, tous deux ex-vice-présidents de la FIFA, ainsi que Konan Kwaku Laurent, Yatse Elele et Aka Arnaud.
La revue de presse. La situation sécuritaire, l'audit des institutions par l'AESELC, la suspension des contrats des retraités de la fonction publique, ce sont là les sujets sur lesquels se sont prononcés les quotidiens du jour. La revue de presse, c'est avec Alinta Ouedraogo.
À la une des quotidiens du jour, l'audit des structures publiques de l'État. Une centaine d'entreprises sont concernées selon l'ASCELC, nous apprend l'Express du Faso. Les travaux préparatoires sont achevés, poursuit le journal Le Pays, et le quotidien de préciser que la hiérarchie militaire garantit d'accompagner l'ASCELC pour l'audit du ministère de la Défense. Cela dit, l'Express du Faso alerte. Transition, attention aux mesures populistes. Ces audits en cours ne doivent pas être une occasion pour mettre le derrière de quelqu'un dehors, indique notre confrère. Notre confrère se veut également critique par rapport à l'interruption des contrats de l'administration avec des personnes déjà à la retraite. Une décision très contradictoire quand on sait que le MPSR a demandé aux retraités de l'armée de revenir pour combattre auprès des autres soldats. Certes, la restauration et la refondation appellent sans aucun doute à des prises de mesures fortes, dont certaines peuvent être source de mécontentement, mais elles ne doivent pas donner l'impression qu'on veut faire de l'humiliation. Pour cela, notre confrère poursuit que la transition gagnerait à tous les niveaux à travailler à unir les Burkinabés sur les questions très essentielles. Elle, qui a surtout besoin de l'adhésion de tous, pour restaurer l'intégrité sur le territoire national et procéder à une refondation de l'administration basée sur les valeurs. L'Express du Faso ne manque pas d'interpeller l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, qui, de l'avis de notre confrère, doit être prudente pour ne pas tomber dans le piège des règlements de compte qu'affectionnent certains Burkinabés. Hors de nos frontières, notre confrère Le Quotidien pose le regard sur la Guinée. Compagnie minière et gestion ressources minières, le bon exemple venu de la Guinée.
Voilà, c'était la revue de presse avec Alinta Ouedraogo. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Edwige Tiendrebeugo. Au Facebook Live, Charles Da, merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.
Vous voulez mieux communiquer pour booster vos affaires? Ne cherchez plus. La radio numéro 1 au Faso met à votre disposition, à un coût étudié, un pool de compétences professionnelles efficaces afin de vous aider à réussir votre communication. Conception, réalisation et diffusion de vos spots et micro-programmes. Couverture médiatique de toutes vos activités. Publi-reportage, communiqué, sponsoring d'émissions, direct en studio et hors studio, direct dédié. Sur notre site internet, sur nos pages Facebook et Twitter et sur notre application smartphone, Radio Omega vous propose des espace pour vos insertions publicitaires, vos couvertures médiatiques web et un habillage complet du site. Mieux communiquer sur Radio Omega pour booster vos affaires.